René Friedman est né le 3 novembre 1943. Il est professeur, comme vous le savez, à l'Université de Paris, chef de service de gynécologie obstétrique reproduction de l'hôpital Antoine Béclair. Il est spécialisé dans le traitement de la stérilité des grossesses à risque, connu pour ses travaux scientifiques ayant permis la naissance du premier bébé éprouvette en 1982. Il est également membre du comité éditorial de nombreuses revues internationales spécialisées et l'auteur de nombreux ouvrages. J'ai indiqué la rétroprojection nous permet de connaître ses différentes publications et notamment son dernier livre, Dieu, la médecine et l'embryon, publié chez Odile Jacob, 97, réédité en 99. Je laisse la parole à René Friedman.
Merci.
De vous resserrer vers le centre, ça permet, je vous rappelle, de laisser des places disponibles aux derniers arrivants. Il y a également des places à droite en bas.
À gauche pour eux.
Et à gauche également.
À gauche pour ceux qui arrivent. Bien. Mesdames, messieurs, j'ai été très honoré d'être invité à participer à ce cycle de conférences que je trouve passionnant dans l'ensemble. Un peu difficile d'aborder en 50 minutes un thème aussi vaste que la maîtrise de la reproduction, que j'ai voulu centrer sur l'embryon humain. Mais je compte faire mon exposé de la façon suivante, faire un petit peu d'histoire, parce que c'est très intéressant de voir l'évolution des idées, surtout le concept qui aboutit à la définition de la personne humaine, et de vous montrer par quelques images ensuite ce que sont les techniques dont on entend souvent parler et que je suppose que vous n'êtes pas tout à fait familier, que sont la fécondation in vitro et à partir de là, puisque incontestablement cela marque une étape, vers l'ouverture des possibles, possibles qui parfois inquiètent ou qui parfois au contraire réassurent dans le sens du progrès scientifique. La maîtrise de la reproduction, je ne traiterai pas, je ne pourrais pas traiter la comparaison entre l'animal et l'homme, parce que là, il nous aurait fallu un peu plus que le temps imparti. Ce qui est déjà extraordinaire dans la maîtrise de la reproduction, c'est peut-être deux dates, ou plutôt deux personnalités symboliques, qui montrent la passion qu'il y a dans ce thème. Le premier, c'est un accoucheur qui, en 1453, a été guillotiné à Hanovre, parce qu'il avait osé accoucher une femme. Et à ce moment-là, c'était absolument interdit aux hommes. Les hommes devaient se déguiser en femme pour pouvoir faire l'accouchement. Et comme il avait été pris, il a été guillotiné. La deuxième guillotine, c'est plus récent, c'est au cours de la dernière guerre. Et c'est une femme française qui a été guillotinée parce qu'elle avait aidé une autre femme à avorter. Et entre accouchement et avortement, entre choses et personnes, toute la problématique justement de la maîtrise de la reproduction, avec ces deux images un peu dramatiques, mais heureusement elles ne sont pas toutes comme celles-là, montre qu'il y a toujours eu énormément d'investissements passionnels sur ce thème, dans un sens pour éviter, pour espacer plutôt les naissances ou éviter des conceptions qui n'étaient pas désirées, et de l'autre au contraire pour essayer d'obtenir un enfant qui est l'objet de tant de désirs et de tant d'attention. Ce qui est assez extraordinaire, mais je ne peux pas, là non plus, faute de temps, remonter à l'Antiquité, c'est que les concepts qui aujourd'hui nous semblent familiers sur ce qui fait que nous sommes là, vous et moi, issus de la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, en fait, ont été extrêmement débattus et extrêmement, je dirais, diversifiés dans leur approche. Il a fallu attendre surtout la Renaissance et, je dirais, les progrès de l'anatomie, ou plutôt la possibilité de réaliser l'anatomie, pour qu'on commence à comprendre qu'il y avait effectivement une participation féminine, une participation masculine, car bien souvent, au début, on ne pensait que tout était contenu au niveau masculin, que la femme était là uniquement pour donner la nourriture au développement, je dirais, de l'embryon qui était contenu au niveau masculin. Et il faut attendre 1628, Harvey, qui avait découvert d'ailleurs la circulation sanguine, pour que les théories, ce qu'on appelle de l'ovisme, c'est-à-dire que tout est contenu dans l'œuf, fleurissent. Et c'est en particulier un Hollandais qui s'appelle De Graaf et qui découvre les follicules ovariens, c'est-à-dire qu'au sein de l'ovaire, nous avons plusieurs follicules qui vont donner lieu à des ovules. Je vais y revenir tout à l'heure un peu plus dans le détail. Et pour penser que tout est contenu et que déjà Ève est dans l'ovaire de chaque femme, Ève, et puis toutes les générations, les mille générations successives sont contenues. Et c'était une théorie qui était débattue très sérieusement au niveau des scientifiques de l'époque. Alors Galilée invente la lunette, enfin ce qui va être le microscope en 1625, et là on commence à découvrir sous cette image les animalcules spermatiques. Et alors, et là, hop, changement de complètement d'orientation, ce sont les animalculistes, c'est-à-dire, surtout avec Bonnet, en 1761, qui pensent que c'est dans la tête du spermatozoïde que se trouve l'homme en entier. Et on revient donc aux premières théories où la femme n'est uniquement là pour favoriser l'éclosion de ce qui est l'homme, qui est contenu, bien sûr, dans la part mâle de la société. Et il faut attendre, il y a une espèce de blanc pendant un siècle, où les théories restent un petit peu quiescentes. Et il faut attendre un petit peu 1825-1827, où on redécouvre, avec sans doute les progrès, je dirais, de l'optique, d'une part l'ovule dans le follicule, et d'autre part les spermatozoïdes, si bien que progressivement on commence à élaborer ce qui va nous être un petit peu familier, mais vous allez être surpris de voir que les choses datent de très très peu de temps, et qui va aboutir à ce que la fécondation, donc c'est bien la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Au XIXe siècle commence la dissociation entre la sexualité et la précréation, avec à la fin du XIXe siècle les premières inséminations qui sont pratiquées, et pourtant, on ne connaît rien au cycle ovarien. On ne sait pas comment se passe l'ovulation, on sait bien qu'il y a des règles et qu'il y a donc quelque chose qui est cyclique, mais on ne connaît pas du tout les principes de l'ovulation du côté féminin. Et c'est déjà, les théories, si vous voulez, commencent à émerger avec, sans doute, je dirais, le développement des machines, le développement de la société industrielle, l'extrême hiatus qui se crée entre la difficulté de concevoir, je dirais, dans un milieu, environnement qu'il accepte, et la pauvreté. Et alors, si bien qu'il y a des théories qui commencent à se faire jour, avec en particulier Condorcet déjà, qui parle du bon engendrement. Il y a un premier livre qui s'est passé un siècle auparavant qui s'appelle de la calipédie. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot bizarre, la calipédie? C'est l'art de faire des beaux enfants. Et en fait, commence à émerger, si vous voulez, tout ce qui est l'environnement. C'est bien beau de faire des enfants, mais il faut pouvoir les élever, et peut-être qu'il y en a trop. Et vous connaissez donc, c'est à ce moment-là que Malthus, vers 1800, je dirais, donne ses théories en préconisant, du fait de la surpopulation, le mariage tardif et même l'abstinence entre les époux pour essayer d'espacer les naissances. Donc on commence à la fin du siècle dernier à essayer de vouloir maîtriser la reproduction, et les premiers conseils sur la contraception, qui étaient très limités car les moyens n'existaient pas à l'époque, date de 1880, où une femme, à l'état Jacobs, et puis ensuite dans les Pays-Bas en 1892, constitue les premiers centres d'information pris par des médecins et par des féministes pour essayer de diffuser la contraception qui se résume en fin de compte à peu de choses, à essayer d'éviter des rapports, ou en tous les cas des rapports complets. Alors, les fameux gants de Vénus, comme disait Shakespeare, existaient depuis longtemps. Et c'est un monsieur dont vous connaissez la marque, parce qu'elle est encore de nos jours sur les pneus des voitures, c'est la marque Goodyear. C'est monsieur Goodyear qui, en 1844, grâce au caoutchouc et à sa grande fortune au niveau des EVA, a fait cette capote qu'on appelle anglaise ici, alors que les Anglais appellent the French, évidemment, pour essayer d'éviter donc et d'espacer les naissances. Donc vous voyez, on remonte de très loin, et en 1800 aussi, à la fin du siècle dernier, un médecin anglais essaye ce qu'on appelle un pessaire, c'est-à-dire un diaphragme au fond vaginal, avec de la quinine pour avoir une action spermicide, c'est-à-dire pour empêcher la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, tout ça dans le but d'espacer les naissances. On en est vraiment au balbutiement. Et c'est en 1900, au début de 1900-1920, qu'il y a une véritable modification pour deux raisons. La première, ça va être la connaissance des hormones, qui jusqu'à là n'étaient pas connues. Et la deuxième, c'est la redécouverte de la génétique. Je dis redécouverte car il y a eu un gap important entre les travaux de Mendel, et qui ont 35 ans, sont restés dans l'ignorance, et ensuite ont été réactualisés. Je vais y revenir un instant. Alors, effectivement, il a fallu attendre le début de, j'allais dire de ce siècle, non, du siècle dernier, ou presque, enfin les débuts de 1900, pour que les hormones, on se rende compte que si on enlevait les ovaires, il se passait quelque chose de différent, et qu'il y avait incontestablement des substances qui étaient sécrétées par les ovaires, comme on va penser très vite qu'au niveau du testicule, également, il y a des substances qui sont fondamentales à la reproduction. Et on va découvrir donc ainsi que l'ovaire va produire de la progestérone et de l'estradiol et que le testicule, grosso modo, parce que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, va produire des hormones mâles, la testostérone. Alors, bien sûr, tout ça laisse aussi, comme toujours, source de fantasmes. Et un des beaux fantasmes qu'on a oublié, c'est un dénommé Voronoff, qui s'est installé sur la Côte d'Azur et qui préconisait les greffes de testicules pour rajeunir. Effectivement, on avait trouvé que la substance mâle était dans les testicules, et cet homme-là a fait fortune. Beaucoup d'hommes ont tenté, mais malheureusement, ils ne sont plus là pour témoigner. Comme quoi, l'éternité n'était pas à l'ordre du jour. Une date importante, 1930, la méthode Ogino. Nous sommes toujours dans le cadre de la maîtrise de la reproduction. Méthode Ogino qui commence à comprendre ce que c'est que l'ovulation, que dans un cycle de 28 jours, cela se divise en 2 fois 14, qui est centré par effectivement l'ovulation, c'est-à-dire l'émission au sein de l'ovaire d'un follicule, qui, on va faire une image, c'est un peu comme un grain de raisin qui pousse pendant 14 jours, et au sein de ce grain de raisin, il y a un petit pépin, c'est l'ovule. Et donc, il y a, si vous voulez, cette croissance pendant la première partie du cycle, pendant les 14 premiers jours, il y a ovulation, et puis dans la deuxième partie, il va y avoir sécrétion d'hormones qui vont essayer de préparer l'utérus à recueillir l'éventuelle fécondation, si elle a eu lieu, entre cet ovule qui a été émis, s'il a rencontré un spermatozoïde, au niveau des trompes. Lesquelles d'ailleurs trompes ont été découvertes par M. Fallop au moment de l'anatomie, et leur rôle date donc de 1700. Et tout ça est quand même extrêmement récent sur le plan de l'histoire des sciences. Et donc je disais donc la méthode Ogino, puisqu'on a cerné qu'il y avait une ovulation et que donc la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule peuvent se faire à ce moment de l'ovulation, mais autrement dit, loin de cette ovulation, il y a possibilité de dissocier sexualité et conception. Et donc la méthode Ogino consiste à prendre la température. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième partie du cycle, après l'ovulation, il y a la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la progestérone. Et cette progestérone a pour effet de monter la température du corps de demi-degrés, 37,2, vous avez tous vu le film. On passe donc de 36,9 à 37,2 et ça va caractériser l'ovulation. Et si on repère donc ce moment-là, on a pu repérer l'ovulation, et si on est loin de l'ovulation, eh bien, on est loin de la conception, en théorie. En théorie, parce que c'était une méthode après coup. C'est-à-dire qu'il fallait savoir qu'on avait ovulé, mais on avait déjà ovulé. Donc s'il y avait eu des rapports sexuels auparavant, eh bien, il n'y avait donc plus de méthode de contraception fiable. Néanmoins, en France, Jean d'Alsace, en 1935, ouvre les premiers centres d'information pour diffuser cette méthode Ogino-Ogino, cette méthode donc naturelle, dite des températures. Mais c'est surtout dans les années 1950 que Gregory Pincus, aux États-Unis, comprend ce que c'est que les hormones en injectant, si vous voulez, de la progestérone chez une lapine et en se rendant compte que des doses hormonales importantes ou à contre-courant du cycle naturel peuvent avoir un effet contraceptif. Et en fin de compte, 1950, c'est l'origine des synthèses hormonales, l'origine d'une action qui va bloquer le phénomène ovarien, puisque la contraception orale, c'est donner de l'estrogène et de la progestérone, qui va donc empêcher l'ovule, l'ovaire de fonctionner et le laisser au repos. Une fois qu'on arrête cette administration d'hormones, l'ovaire reprend. Donc, les années 1950-1960, ce sont l'émergence de tout ce qui est contraception orale, de tout ce qui est la pilule. Les années 1970, c'est la possibilité de mettre un stérilet. Il y avait déjà eu, bien, depuis l'Antiquité, on mettait tout un tas de choses, non pas au niveau de l'utérus, mais au niveau vaginal, qui étaient censées, je dirais, empêcher la rencontre des spermatozoïdes et des ovules. Mais là, c'est un peu plus précis, et ça définit ce qu'on appelle une contragestion, puisque la fécondation a lieu, mais l'implantation au niveau de l'utérus ne peut avoir lieu. Dans les années 80-90, d'une part, c'est l'apparition du RU486, dont je crois le professeur Beaulieu viendra vous parler dans quelques jours, entre autres, et qui est donc une nouvelle molécule qui vient bloquer l'implantation. Et bien sûr, on n'a pas oublié, donc 1975, la loi Veil, qui autorise la médicalisation de l'interruption volontaire de grossesse chez les femmes en détresse qui ne peuvent ou ne souhaitent continuer une grossesse qui a commencé en dehors de toute contraception. Sur le plan génétique, donc je disais que parallèlement à cette découverte des hormones qui avancent vers cette maîtrise de la reproduction, sur le plan génétique, eh bien, on a évacué les théories qui faisaient référence à la transmission des caractères, je dirais, acquis, comme si donc, ce qu'on pouvait acquérir au cours de la vie était transmissible génétiquement au niveau de la descendance. Par contre, on a redécouvert ce que je disais, Mendel, qui était un moine hongrois qui cultivait un petit jardin. Et dans ce petit jardin, il cultivait des petits pois. Et au travers de ces petits pois, il a mis en évidence toutes les fameuses lois mendéliennes de transmission des caractères, en expliquant ce que c'est qu'un caractère dominant, ce que c'est qu'un caractère récessif. C'est-à-dire que si on est récessif pour tel caractère, il faut qu'on soit deux pour que l'enfant soit porteur de celui-là. Si on est dominant, cela suffit qu'un seul des membres du couple puisse transmettre cette hérédité. Ce concept d'hérédité a été donc remis au goût du jour en 1900, alors que les travaux de Mendel datent de 1865. Je disais qu'il y avait 35 ans qui avaient été laissés un petit peu sous silence, et que c'est De Vries, un néerlandais, qui donc remet ce concept d'hérédité. Mais il faut attendre 1914 pour que les travaux de Morgan sur la drosophile montre que ce concept d'hérédité est porté d'une part par les chromosomes et d'autre part au sein des chromosomes par les gènes. Alors les chromosomes, c'est comme un collier, et puis les gènes, ce sont les perles qui sont dans ce collier, et il y en a des milliers. Alors on attend 62 pour que Watson et Crick aient le prix Nobel pour avoir démontré que la base, si vous voulez tout ça, ce sont deux hélices hélicoïdales qui sont à la base de l'ADN, qui est le support de l'hérédité. Et on va bien sûr encore un peu plus loin. On sait donc que cet ADN est, comment dire, la source de toutes les protéines qui constituent notre organisme en permanence de fonctionnement, et que cette programmation donc des protéines est sous le couvert d'une part de l'ADN, d'autre part de l'ARN, c'est-à-dire une espèce de transmission, un code génétique qui évoque beaucoup les travaux que nous faisons actuellement en informatique et qui montre cette transmission. Mais bien entendu, c'est tellement fin que s'il y a un handicap ou quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, on peut avoir des maladies extrêmement importantes, vous le savez. Et juste deux dates, je disais que c'était étonnant parce qu'on a l'impression que les choses sont acquises. Eh bien, deux dates, hein, si vous voulez. C'est que ce n'est qu'en 1956 que l'on a su que l'être humain était constitué de 46 chromosomes et non pas de 48. Donc, nous sommes tous constitués normalement de 46 chromosomes, et ça date donc d'un Paraguayen qui s'appelait Tijo et d'un Suédois, drôle de rencontre, Levan, mais ils ont tous les deux mis en évidence donc le fait que l'être humain était constitué de 46 chromosomes. Et ce n'est qu'en 1959 qu'on s'est rendu compte qu'une maladie qu'on appelle le mongolisme, du fait des caractéristiques morphologiques des enfants atteints de cette anomalie, sont dues au fait qu'il y a un troisième chromosome 21, alors que normalement il n'y en a que deux. En effet, la base de tout cela et la base de la conception et de la reproduction, c'est en définitive qu'un homme et une femme, premièrement, souhaitent ou désirent un enfant, on y reviendra sur la fin, mais qu'ils vont, en fin de compte, apporter chacun leur patrimoine génétique. Et il va y avoir un certain nombre de chromosomes qui vient de l'homme, un certain nombre de chromosomes qui vient de la femme. Et chacun, l'ovule, va apporter 23 chromosomes et le spermatozoïde, 23 chromosomes. Alors me direz-vous, mais comment est-ce possible ? Puisque nous sommes constitués de 46 chromosomes, c'est-à-dire que chacune de nos cellules est porteur de 46 chromosomes. Donc si deux se rencontrent, c'est 46 plus 46. Eh bien, effectivement, si tel était le cas, et malheureusement cela arrive de temps en temps, cela crée des anomalies et des embryons qui ne se développent pas, car ils sont porteurs d'anomalies. Mais ce qui se passe, c'est que aussi bien au niveau du spermatozoïde qu'au niveau de l'ovule, à un moment donné, il va y avoir une division par deux du nombre de chromosomes, c'est-à-dire de 46, il va se présenter 23, pour justement pouvoir recréer à chaque fois un individu qui aura que 46 chromosomes, sauf quand il y a des anomalies. Donc, la fécondation, c'est cette rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle que de temps en temps on veut éviter pour espacer les naissances, que de temps en temps on veut favoriser lorsqu'on veut traiter une infertilité. Et traiter l'infertilité, cela devient de plus en plus important, je dirais, à notre époque. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a des enfants de plus en plus tard. Vous savez que aujourd'hui en France, le premier enfant, c'est 28 ans pour une femme. 28 mois, même 29 ans dans la région parisienne. Donc, en quelques années, ça a terriblement changé. Pensez que dans certains pays dans le monde, les grossesses commencent à 13-14 ans. Donc, on est déjà à 28-29 ans. Donc, très vite, et parce qu'il y a la société qui a changé, parce qu'il y a le métier qui évolue, parce qu'on a pris justement une contraception pour espacer les naissances, mais s'il y a un cafouillage et que quelque chose fait que la grossesse ne vient pas comme on le souhaite, on tombe tout de suite dans la période de 30-40. Et la période 30-40, pour peu que le travail a été très investi, pour peu qu'il y ait eu, c'est aussi un phénomène de société, un changement de partenaire, on se trouve autour de 35 à vouloir soit un premier enfant, soit, après un ou deux enfants obtenus dans un premier mariage, vouloir obtenir un autre enfant. Et là, on rentre dans une période de fertilité qui est plus compromise. Car une notion est fondamentale, c'est que l'âge de la personne, surtout de la femme en l'occurrence, là il y a une véritable dissociation entre l'homme et la femme. L'homme peut concevoir jusqu'à très tard, la femme est limitée génétiquement dans sa formation des ovules, et à partir de 38 ans, sa fertilité va décroître. Cette notion est extrêmement importante, puisqu'on considère que l'âge naturel de la procréation, je dis bien naturel, car vous allez voir que sur le plan artificiel, on peut faire un certain nombre de choses. Donc sur le plan naturel, il se situe autour de 45-46 ans. Il y a quelques grossesses sporadiques jusqu'à 48 ans et ensuite cela s'arrête. Ça, c'est le phénomène naturel, en tous les cas, de notre époque, parce que les choses ont peut-être un petit peu évolué. Et il faut considérer qu'une femme qui a eu beaucoup d'enfants peut concevoir souvent un peu plus tard. La femme qui n'a jamais eu d'enfants, c'est plus difficile pour elle d'être enceinte à partir de 40 ans. On va peut-être passer quelques diapositives pour illustrer un petit peu ces propos, ou plutôt, non, pas les illustrer, mais plutôt débattre un petit peu des progrès plus récents sur le plan scientifique. La première, si on peut l'avoir, c'est effectivement pour illustrer que tout le monde sait, et ça reste vrai, je l'affirme, que les filles naissent dans les roses, et que les garçons, si on veut bien mettre au point, parce qu'il faut une rose bien définie, parce que sinon, effectivement, ça ne marche pas. Donc, il faut absolument mettre au point cette petite image qui est... Non ? On va y arriver. Ah, on a failli l'avoir. Voilà. Donc je disais, il faut reprendre le rythme, hein. Donc je disais, les filles naissent dans les roses, suivante s'il vous plaît, pour tenir le... On va recommencer, je peux la refaire plusieurs fois. Et les garçons naissent dans les choux. Si vous pouvez mettre la suivante... Le problème, si vous voulez, c'est que la maîtrise de la reproduction, c'est que ça peut aller 1, 2, 3, et parfois même un peu plus loin, la suivante s'il vous plaît, puisqu'on peut en avoir jusqu'à très nombreux. Alors, attention, le fait d'avoir des enfants si nombreux dans une même portée, entre guillemets, ce n'est pas une victoire de la science, c'est plutôt une erreur de la médecine. Et malheureusement, nous sommes parfois en contradiction entre ce que pensent les scientifiques et ce qui est, je dirais, attirant sur le plan médiatique. Vous avez tous suivi cette grossesse de je ne sais plus combien, d'ailleurs 7, 8, aux États-Unis. Il faut voir que pour une histoire qui se termine relativement bien, la plupart se terminent très très mal, et qu'il ne faut pas avoir le goût de l'exploit de ce type, car encore une fois, pour moi, ce sont plutôt des erreurs médicales plutôt que des succès. L'objectif est d'essayer d'aider un couple à concevoir un enfant, et non pas à fournir justement... Merci. Oui, d'accord. Alors ça, c'est non pas des attouchements, mais c'est un examen gynécologique du siècle dernier. C'est pour vous montrer que les choses ont évolué, et je voulais me servir en fait de cette diapositive pour faire tout mon commentaire historique, mais je vous ai déjà fait mon commentaire historique, donc on va plutôt évoluer et montrer que ici, voilà ce que l'on sait aujourd'hui. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ovulation du côté féminin, et je voudrais donc qu'on se souvienne que premièrement, la femme va faire marcher ses ovaires à partir de la puberté. Jusqu'à là, ses ovaires sont au repos. Elle va les faire fonctionner, enfin elle va les faire, c'est pas volontaire, ils vont fonctionner de l'âge de 13 ans en moyenne jusqu'à l'âge de 54 ans, qui est l'âge de la ménopause. Ceci est constant, quels que soient les climats, quelles que soient les populations, quelles que soient les périodes, c'est quelque chose qui est génétiquement programmé. Et par contre, ce que l'on sait depuis peu de temps, c'est dès la naissance, dès même, je dirais, le stade fœtal, tous les ovules sont contenus déjà dans ses ovaires. Tous les ovules sont contenus dans ses ovaires, c'est-à-dire que la femme arrive avec un stock de plusieurs millions au début, plusieurs centaines de milliers dès la naissance, et en fait, parce qu'il y en a un certain nombre qui vont partir progressivement, elle va, de tout ce capital, en garder que 300 ou 400, qui seront susceptibles, puisque en fin de compte, il n'y a que 400 cycles, grosso modo, entre la période, si vous voulez, de la puberté et la période de la ménopause, enfin, plutôt dans l'âge naturel de la procréation, il n'y a que 300 à 400 cycles qui sont susceptibles de rencontrer un spermatozoïde et donc de donner un être humain, de donner un embryon. Alors, on va voir que donc, tout le stock existe et que ce qui va faire ce mécanisme est une horlogerie extrêmement intéressante, qui n'est pas représenté ici sur cette diapo, qui est que le cerveau est au-dessus, qu'au niveau du cerveau, il y a une petite glande qui s'appelle l'hypophyse, et que c'est de cette glande de l'hypophyse que viennent des hormones qui vont stimuler les ovaires. Ils vont stimuler les ovaires pour que ceux-ci, au cours d'un cycle de 28 jours, je vous le disais tout à l'heure, pendant les 14 premiers jours, va émettre un follicule, l'ovule va venir ici au sein de la trompe, va cheminer dans la trompe et éventuellement rencontrer les spermatozoïdes qui ont été passés ici au sein de l'utérus à la suite d'un rapport sexuel. Mais je reviens au niveau de l'ovaire. L'hypophyse va donc donner des hormones qu'on appelle la FSH et la LH qui vont donc stimuler cet ovaire. Et donc cet ovaire, il va répondre de quelle façon ? Je vous l'ai dit, au bout du 14e jour, il y a une ovulation. Ensuite, il se transforme en progestérone, d'où augmentation au niveau du corps de la température. On sait donc qu'il y a eu une ovulation. Pendant 14 jours, cette progestérone vient préparer ici l'utérus parce que l'ovule, lorsqu'il est là, s'il rencontre un spermatozoïde, fait un petit chemin comme ça, il se féconde et puis il avance ici. L'embryon de 2-3 jours vient dans la cavité qui a été préparée par l'hormone ici sécrétée par l'ovaire. C'est le nid. Une nidation peut se préparer et au bout de 3-4 jours, l'ovule va s'implanter au niveau de l'utérus. Et dès qu'il y a implantation, donc vous m'avez suivi, ovulation 14e jour, il y a fécondation, ça met 3 jours pour descendre, 3 jours encore pour s'implanter, donc vers le 21e jour, 22e jour du cycle, puisque là c'était 14e jour, il y a implantation, et dès qu'il y a implantation, il y a sécrétion d'une hormone qui va informer l'organisme qu'il y a bien eu information. Et cette hormone, c'est ce qu'on appelle en résumé l'HCG. L'HCG, elle est sécrétée de l'embryon et elle vient stimuler l'ovaire en disant « Dis donc, il ne faut pas s'arrêter toi parce que j'ai besoin de tes hormones, donc on se stimule. » Et donc il y a une espèce d'échange entre l'HCG qui stimule l'ovaire et l'ovaire qui, du fait, réagit en sécrétant de la progestérone et plus, et de l'estradiol pour aider l'embryon à s'implanter. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au moment où le placenta lui-même prend le relais de cet ovaire et va produire au bout de 8 semaines une grande quantité d'hormones d'estradiol et de progestérone qui vont aider l'embryon à tenir. Alors cet HCG qui vient donc de l'embryon jusqu'à l'hormone, eh bien c'est le fameux test de grossesse que tout le monde connaît. Parce que dans les urines, dès qu'il y a un peu d'HCG, cet HCG passe dans le sang, passe dans les urines, et c'est ça qu'on va détecter. Et s'il y a de l'HCG, ça veut dire effectivement qu'il y a implantation, qu'il y a donc grossesse. S'il n'y a pas d'HCG, il n'y a pas de grossesse. Donc, c'est encore un peu schématique, mais vous voyez qu'on a bien avancé depuis le 19e siècle pour comprendre un petit peu. Et puis, on va voir, bien sûr, la même chose du côté féminin. Mais ce qui est extrêmement important, encore une fois, c'est que cette fécondation, on va rentrer un peu dans l'intimité là dans un instant, c'est que cette... j'ai essayé un petit peu de... donc, c'est que cette fécondation va résulter, encore une fois, de la séparation de 46 chromosomes en 2x23. Alors, lorsqu'une femme veut un enfant, lorsqu'un couple, on va dire, veut un enfant, on va regarder s'il y a une ovulation, parce que sans ovulation, et malheureusement c'est le cas de certaines maladies, impossibilité. On va regarder si les voies génitales sont libres. Vous avez vu le petit parcours qui doit être fait dans les deux sens, puisque le spermatozoïde va monter, et puis ensuite l'embryon, va redescendre. Et donc on va regarder du côté masculin si le spermogramme est normal. On va regarder le nombre, la mobilité et l'aspect de ces spermatozoïdes que maintenant, on est bien loin de Galilée, on s'est examiné donc au microscope. La suivante, c'est moi, pardon. Alors, une chose importante, je vous ai dit que les résultats de la fécondité étaient liés à l'âge, mais plus que l'âge de la patiente, on va s'occuper de l'âge de ses ovaires. Bien sûr, souvent, les choses sont liées, c'est-à-dire que l'ovulation va être de moins bonne qualité au fur et à mesure que l'âge avance. Mais d'un autre côté, il y a des fois des distorsions. Il y a des femmes jeunes qui ont ce qu'on appelle des ménopauses précoces. Et il y a au contraire des femmes autour de la quarantaine qui gardent un potentiel ovulatoire extrêmement pertinent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va être un certain nombre de dosages hormonaux que l'on va faire au troisième jour du cycle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, éventuellement j'y reviendrai si ça intéresse certains d'entre vous. Et je dirais que, par exemple, cette hormone qui s'appelle l'inhibine B est quelque chose que l'on ne dosait pas il y a 2 ans. Et donc, autrement dit, chaque année, si vous voulez, on essaye d'apprécier la qualité de cette ovulation et d'avoir des informations supplémentaires pour essayer de savoir quel est le pronostic, en fin de compte. Quel est le pronostic cette patiente et de ce couple s'ils désirent un enfant. On va donc étudier la qualité de l'ovulation. Ça, je vous fais une première. Là, vous êtes à l'intérieur de la cavité utérine. Vous êtes rentré par un petit hystéroscope. Et voilà la cavité utérine avec ici les ostiums, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les orifices tubaires. Donc les spermatozoïdes vont devoir rentrer par là. Et l'embryon, lui, va, une fois qu'il sera constitué dans la trompe, va revenir ici et va s'implanter à ce niveau-là. Alors, je vous ai mis juste quelques images pour vous montrer que tout n'est pas toujours simple dans la nature et qu'on a des fois des cavités qui sont perturbées par des adhérences, qu'on peut avoir des polypes, vous voyez ici des polypes qui viennent ici empêcher l'anidation. Et donc, si vous voulez, il va falloir connaître la qualité de l'ovulation, être sûr que la cavité utérine et que les trompes sont bien libres pour qu'il y ait fécondation. Et troisièmement, il va falloir que l'on ait un examen au niveau du sperme pour savoir qu'il y ait une quantité de spermatozoïdes suffisant et de qualité suffisante. Lorsque tout ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, habituellement, c'est traiter par des hormones pour essayer d'améliorer l'ovulation, faire de la chirurgie fine, parfois au microscope, pour essayer d'ouvrir les trompes si elles sont bouchées, enlever les polypes, comme je vous ai montré, et essayer donc de reconstituer la possibilité de rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle. Mais parfois, cela n'est insuffisant, et je dirais, malgré la chirurgie, les trompes restent bouchées, ou malgré le traitement de l'ovulation, la réponse n'est pas suffisante, et on passe donc à une étape supérieure, qui a donc marqué ces 20 dernières années, parce qu'incontestablement, cela a été une étape, c'est la fécondation in vitro, puisque pour la première fois, on a pu avoir, si vous voulez, entre les mains l'embryon humain qui jusqu'à là n'était pas touchable, donc on peut manipuler un embryon qui était intouchable jusque-là, on a pu voir ce qui était invisible jusqu'à nos jours, c'est-à-dire justement le tout début, c'est-à-dire l'embryon humain. Donc, très schématiquement, avant de venir aux choses un peu plus philosophiques, qu'est-ce que la fécondation in vitro ? Eh bien, la fécondation in vitro, ça a été une proposition de faire rencontrer le spermatozoïde et l'ovule, de le faire rencontrer dans l'éprouvette, d'où le terme de bébé éprouvette, hein, alors que cette rencontre ne pouvait avoir lieu naturellement. Les trompes ne sont pas là, donc la rencontre ne peut avoir lieu. Les trompes ne sont pas là, pourquoi ? La femme a une grossesse extra-utérine, parce qu'il y a une malformation qui fait qu'elle n'a pas de trompe, ou parce que surtout, et c'était surtout valable dans les années 90, parce que les trompes étaient bouchées du fait d'infections récidivantes. Donc la fécondation in vitro, c'est contourner la normalité par la rencontre au laboratoire dans ce qu'on appelle l'éprouvette. Mais en fait, uniquement pendant 2-3 jours. Et ensuite, le but étant de remettre les embryons, on va voir ensuite pourquoi cette histoire, au niveau de l'utérus. Alors, un bilan d'abord, pas tout le monde peut bénéficier de la fécondation in vitro. Il faut avoir une ovulation, avoir une cavité utérine normale et avoir suffisamment de spermatozoïdes, encore que, les choses ont énormément avancé. Je vous ai dit que la fécondation in vitro était faite au début pour contourner la trompe déficiente. Et puis, dans les années 90, 10 ans après, on s'est rendu compte que lorsque l'homme avait très peu de spermatozoïdes, la fécondation in vitro pouvait résoudre le problème, puisqu'on pouvait prendre un seul spermatozoïde et l'injecter dans l'ovule. Allez, un peu d'image maintenant pour essayer d'illustrer tout ça. Pour faire une fécondation in vitro, 4 étapes importantes. Il faut stimuler l'ovaire, il faut recueillir les ovules, il faut réaliser la fécondation et il faut ensuite retransférer l'embryon. Je passe un petit peu parce que ça c'est un peu de la technique. On donne des traitements si vous voulez. Et voilà une image à l'échographie. Vous voyez des traitements qui... qui vont provoquer... Voilà un follicule, voilà donc un ovaire, c'est une échographie. Vous avez ici plusieurs follicules, puisqu'on a donné un traitement. Et au sein de ce follicule, il y a l'ovule, porteur des 46 chromosomes. Mais, bien sûr, on ne le voit pas à l'œil nu. Et on ne le voit pas à l'échographie. Ensuite, du côté masculin, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est une masturbation pour recueillir les spermatozoïdes. On le prépare en faisant migrer sur un milieu pour recueillir les plus vigoureux, disons. Au sein du laboratoire, on va récupérer les spermatozoïdes les plus mobiles et on va les mettre ensuite au contact, de l'ovule. Pour avoir les ovules, on va faire un prélèvement. Au début, on le faisait par célioscopie, c'est-à-dire qu'on introduisait ici, mais aujourd'hui et depuis de nombreuses années, cela se fait par échographie avec une sonde vaginale qui rentre à l'intérieur. Ici, vous voyez le vagin, ça c'est l'utérus, et on va prélever l'ovaire qui est juste derrière. On fait une petite anesthésie qui dure 10 minutes pour prélever. La patiente rentre le matin et sort l'après-midi. Donc tout se passe en ambulatoire et on peut ainsi recueillir plusieurs ovules si cela a été bien conduit. Alors voilà l'image, si vous voulez, d'un ovule à l'intérieur duquel il y a un noyau que l'on ne voit pas. Donc vous voyez, les chromosomes, c'est encore plus petit. Et cet ovule est entouré de cellules qu'on appelle de la granulosa qui servent à le nourrir quelque part, avant qu'il ne rencontre les spermatozoïdes qui vont se frayer un chemin au travers de ce magma cellulaire pour pouvoir pénétrer. Et chose extraordinaire, une fois qu'un spermatozoïde va pénétrer, eh bien l'ovocyte se ferme, c'est-à-dire il y a un peu comme si tous les ponts-levis se redressent, et une fois qu'un est dans la place, les autres se butent contre un mur, il y en a un seul qui doit pénétrer. N'y voyez pas là une morale, mais c'est la réalité, sauf quand il y a des anomalies où plusieurs peuvent pénétrer. À ce moment-là, on a au contraire des choses qui ne vont pas bien du tout. Alors voilà donc l'image d'un ovule dont on a enlevé les cellules qui l'entouraient. Vous voyez une membrane importante, c'est comme on imagine donc une coquille qui entoure un petit œuf. Et cet ovule est à l'intérieur. Il contient ici un noyau, un spermatozoïde que je pensais que l'on voyait, mais non. Bon, alors voilà ici. Regardez un peu la différence de taille entre un spermatozoïde, et un ovule. Voici ici quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes à peu près 36 heures après le début de l'ovulation. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la différence entre cet ovule ici et celui-là. Eh bien, vous voyez, ici, il y a quelque chose qui n'existait pas. Eh bien, ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le premier globule polaire. C'est 23 chromosomes. C'est-à-dire que de la situation ici, où il y a 46 chromosomes, on passe à celle-là, où il va mettre de côté 23 chromosomes. Le spermatozoïde fait la même chose de son côté. Tout ça se passe assez rapidement, en quelques heures, de telle sorte que, lorsqu'il va pénétrer à l'intérieur, ça sera 23 plus 23. J'en reviens toujours à mon propos. Donc, voici un spermatozoïde, vous voyez, qui se promène, là, et puis qui va pénétrer dans la membrane. Et une fois qu'il aura pénétré dans la membrane, alors tout d'abord, oui, spermatozoïde, il n'est pas toujours aussi fringant que celui-là, avec ici, vous voyez, un flagelle. En fait, c'est un moteur. Hein, c'est un petit moteur parce qu'il bouge le flagelle. Et quel est l'objectif? L'objectif, c'est que les 23 chromosomes qui sont dans ce noyau, eh bien, ça, c'est un moteur pour essayer de les apporter jusque-là. Donc, ouais. Voilà. Mais par contre, ça commence au niveau testiculaire par être une cellule très ronde qui ensuite va commencer à s'allonger. Le flagelle va pousser et va lui servir donc de moyen de locomotion. Donc lui aussi, il y a toute une maturation au niveau du spermatozoïde, comme il y a une maturation au niveau de l'ovule. Alors, il a pénétré à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que vous voyez, il y a maintenant deux globules polaires qui sont émis, et vous avez ici les deux pronoyaux, l'un qui est mâle, l'autre qui est femelle, 23 plus 23, les choses vont pouvoir commencer, et les questions vont également pouvoir commencer, à savoir, est-ce que l'on peut, dès ce stade où il y a échange du matériel chromosomique, parler de personnes humaines, de potentialité de personnes humaines, de choses? Vous voyez qu'il y a la matière à discussion. Voilà donc des embryons humains in vitro. Vous voyez qu'on est loin de l'image de la petite poupée russe qui ressemble à quelque chose d'humain. On est par contre à un moment où tout le génie génétique est contenu à l'intérieur de ces cellules. Ici, on est deux jours au laboratoire. Voilà des cellules qui sont bien régulières, mais tous les embryons ne sont pas comme ça. Il y a, vous voyez ici, des granulations. Ici, beaucoup de granulations. Donc, les embryons, certes, existent, mais ne sont pas de même potentialité de développement. Et on va peut-être être amené à décider lesquels ont plus de potentialité que d'autres. Alors voici un embryon maintenant de 8 cellules. Au moment où on va, vous voyez, il reste encore là tous ceux qui n'ont pas pu rentrer, les pauvres là qui sont là tout autour, et ils sont toujours restent là. Alors que ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que la membrane, elle, n'a pas bougé. On est toujours à un dixième de millimètre, et vous voyez qu'à l'intérieur, par contre, on n'a pas chômé. On s'est divisé et redivisé. On arrive à une petite morula, parce que ça a l'aspect d'une mûre. Vous voyez, des petits grains de mûre. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au sixième jour, il va se constituer une petite cavité à l'intérieur. Et cette membrane va alors se dissoudre pour que l'embryon, qui est proprement dit ici, va s'implanter au niveau de l'utérus. Donc, cette membrane, quelque part, le protège, permet les premières divisions et est un peu permet la cohésion de ces cellules, mais très rapidement elle va devoir se dissoudre pour que cet embryon s'implante. Et si elle ne se dissout pas, eh bien l'embryon ne peut pas s'implanter. Quand je dis embryon, c'est le bouton embryonnaire qui va donner effectivement le fœtus et aussi les cellules qui vont donner le futur placenta, ce qu'on appelle à ce moment-là le trophoblaste. Alors ensuite, une fois cet embryon, on va le remettre, je reste dans la fécondation in vitro, on le remet dans le cathéter, un petit cathéter comme ça, vous voyez le cathéter, hop, on l'implante. Alors ça, c'est sans anesthésie, c'est absolument indolore, et on va mettre un ou plusieurs embryons, et on va espérer qu'ils prennent. Pourquoi un ou plusieurs? Parce que vous voyez que si on met un embryon, il y a 10, 11% de grossesse, ça c'est les résultats nationaux français. Si on a deux, il y en a 25%, si on a trois, il y en a 31%. Donc évidemment, on a plutôt envie d'en mettre trois. Le problème, rappelez-vous les premières photos que je vous ai montrées, c'est que si on en met trois pour essayer d'augmenter le taux de grossesse, eh bien malheureusement, on va avoir un certain nombre de grossesses multiples. Alors, à l'inverse, pour éviter les grossesses multiples, on a inventé la congélation des embryons. Pourquoi la congélation des embryons? Parce que pour ne pas les mettre tous à l'intérieur de l'utérus, on va leur donner une chance, on va les congeler. Alors évidemment, vous vous rappelez que ce n'est pas comme ça un embryon, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, il est bien clair. Mais on va pouvoir les congeler, et ça c'est quelque chose qu'on connaissait au niveau de l'animal, parce qu'il faut vous dire que la fécondation in vitro a été débutée chez l'animal à la fin du siècle dernier, à Cambridge, même lieu d'ailleurs où la première enfant née après fécondation in vitro, la petite Louise Brown, a été conçue. Donc, les embryons congelés, pourquoi ? Eh bien, pour essayer d'éviter qu'il y ait de trop de grossesses multiples, mais en même temps leur donner une chance. Alors, la congélation embryonnaire, ça permet 15 à 1% de chances supplémentaires, mais ça, on commence à rentrer dans la multiplicité des problèmes éthiques. On y vient. Parce que, rendez-vous compte que sur une centaine de centres qui existent en France, il y a à peu près 40 000 tentatives de fécondation in vitro par an. Sur 40 000 tentatives de fécondation in vitro, ça produit environ, en moyenne, 4 à 5 embryons. Tous ne sont donc pas replacés, donc vous voyez qu'il y en a un en moyenne qui peut être congelé, et donc on va rentrer dans un certain nombre de problèmes. Que faire de ces embryons? Qui sont-ils? Est-ce qu'on peut, et là c'est vrai qu'on a une espèce de possible qui fait un peu tourner la tête, puisqu'on peut concevoir une filiation transgénérationnelle, puisque ces embryons, en principe, pourraient être conservés pendant des années ou des années. Je dis bien en principe. Alors, taux de grossesse, là, il faut être un peu moins enthousiaste. Les taux de grossesse sont autour de 25% de grossesse, 20% d'accouchement. Donc, c'est une méthode qui, certes, permet de résoudre un certain nombre de problèmes, mais ne résout pas tout. Loin de là, ce n'est pas la panacée, et il faut rester prudent et modeste. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Certes, on peut recommencer plusieurs fois, mais on a à chaque fois le même pourcentage de succès. Alors, les problèmes. Les problèmes, c'est qu'à partir du moment où on a mis cette technique à disponibilité, comme je le disais, on peut voir, on peut toucher, on peut manipuler, et on peut faire des choses qui n'existaient pas auparavant. La première de ces choses, c'est que, à partir du moment où on dispose des embryons, on peut donner des ovules à une autre femme qui n'a pas d'ovaire, qui ne fonctionne pas. Alors, on connaissait le don de sperme, qui avait été fortement décrié au début du siècle, et puis les banques de sperme, ce qu'on appelle les sécos, se sont constituées dans les années 70. Donc, on savait qu'on pouvait traiter les hommes qui n'avaient pas de spermatozoïdes si le couple acceptait le principe. Il ne faut pas prendre ça comme un médicament. Une paillette n'est pas un médicament. C'est une démarche extrêmement importante qui doit être mûrement réfléchie, mais un certain nombre de couples l'ont franchie et ont donc eu recours aux banques de sperme depuis les années 70. Il a fallu attendre donc 86 à peu près pour que les premiers dons d'ovules puissent se réaliser. Et aujourd'hui, en France, ils sont autorisés, mais ils sont dans le cadre d'une loi qui a été promulguée en 1994 et qui est extrêmement contraignante, puisqu'elle impose, si vous voulez, deux notions fondamentales. Une notion qui est formidable, qui est celle de la gratuité. Une notion qui pose un certain nombre de problèmes, qui est celle de l'anonymat, puisque la donneuse ne doit pas, enfin plutôt la receveuse, ne doit pas connaître l'origine des ovules qui vont lui être donnés, ce qui n'est pas sans complications sur le plan pratique. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan pratique? Eh bien, une femme qui n'a pas d'ovaire, une femme jeune qui a une ménopause précoce, peut venir avec sa sœur ou une amie pour que celle-ci fournisse des ovules, mais elle ne va pas lui donner à elle, elle va donner à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, elle va donc donner des ovules à la banque, laquelle banque, si vous voulez, va pouvoir faire un croisement, un appariement, pour pouvoir donner donc des ovules à cette personne venant d'une autre donneuse qu'elle ne connaît pas. Et là, il y aura tout un travail d'appariement pour essayer de faire que, on ne va pas faire, si vous voulez, un petit noir dans une famille de jaunes. En un mot, on va essayer de tenir compte de l'environnement. Donc, il y a des caractéristiques morphologiques qui vont devoir entrer en ligne de compte. Et bien sûr, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recherche exactement? Quels sont les critères? Quels sont les caractères? Est-ce qu'on n'est pas dans une certaine forme d'eugénisme? On y reviendra tout à l'heure. Autre chose que l'on peut faire, eh bien, c'est grossesse et ménopause. C'est-à-dire que peu importe l'âge naturel de la procréation, et vous le savez, les Italiens se sont distingués à ce niveau, ils ont fait des grossesses chez des femmes de 61, 62, 63 ans, puisque si on donne un ovule chez une femme qui n'a pas d'ovaire qui fonctionne, mais qu'on donne des hormones pour que l'utérus soit prêt à accueillir ces embryons, eh bien, on peut voir des développements, et c'est vrai, on voit des développements donc, jusqu'à terme, donc c'est dépasser l'âge naturel de la procréation. La congélation, je l'ai mentionné tout à l'heure, autre possibilité qui ouvre un certain nombre de questions, puisqu'on pourrait imaginer que deux embryons congelés, l'un soit une fille, soit transféré et donne naissance à une petite fille, que cette petite fille, ultérieurement, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, porte l'embryon qui était congelé en même temps qu'elle, et donc porte sa propre petite sœur ou son propre petit frère. Vous voyez, on peut faire des montages de science-fiction qui sont, je dirais, assez extraordinaires sur le plan de la science-fiction, si ce n'est qu'ils sont aujourd'hui quasiment possibles. Et c'est un petit peu ça qui est assez extraordinaire, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que beaucoup de choses qui étaient simplement contenues dans le célèbre livre d'Aldous Huxley sont aujourd'hui possibles, si bien qu'au fur et à mesure que il y a la progression scientifique, on a nécessité absolue d'avoir une réflexion éthique, car c'est seulement cette réflexion qui constituera les barrières, ou en tous les cas les garde-fous moraux, d'une pratique qui, elle, n'a pas de limite technique. Alors, parmi les développements, vous voyez ici, c'est l'ICSI, c'est-à-dire que c'est l'introduction par une petite pipette. Il y a un spermatozoïde qui est à l'intérieur. Ici, il a été laissé. Donc, c'est dans le cas où les hommes ont très peu de spermatozoïdes, eh bien, on peut introduire un seul spermatozoïde et donc résoudre de la sorte un certain nombre de stérilités masculines. Voici ici une autre technique. Quand je vous disais que l'embryon est devenu manipulable, vous voyez ici, il y a trois noyaux. Incontestablement, il y en a un de trop, puisqu'il n'en faut que deux, 23 et 23. Donc on peut, avec cette pipette, introduire et retirer le noyau supplémentaire pour avoir fait de la chirurgie au niveau de l'embryon. Et on fait encore de la chirurgie parce que vous voyez ici, il y a des fragmentations qui vont peut-être empêcher l'embryon de se développer. Et on peut ainsi, je dirais, le nettoyer, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est cette image ? Eh bien, cette image... C'est sans doute un des problèmes qui va être terriblement développé ces années. C'est toute la rencontre entre la génétique et la reproduction. C'est la possibilité sur une seule cellule, vous avez vu tout à l'heure la petite pipette pour nettoyer, mais elle peut aussi retirer une cellule. Et sur cette cellule, une cellule saine. Et cela ne va pas empêcher l'embryon de se développer. Parce qu'à ce stade-là, l'embryon peut donner naissance à des jumeaux. Même à des triplés. Il a donc un potentiel, on appelle ces cellules, des cellules totipotentes, qui peuvent donner, si vous voulez, un développement d'un fœtus ou d'un individu en entier. Donc on peut enlever une de ces cellules sans gêner le développement embryonnaire et on peut examiner sur cette cellule quelques analyses chromosomiques. C'est ce qu'on appelle le diagnostic génétique préimplantatoire. Alors, la loi française l'autorise, mais elle l'autorise dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut que le couple soit porteur d'une maladie génétique connue et que cette maladie génétique soit particulièrement grave et incurable pour qu'on puisse le rechercher au niveau de l'embryon. Et donc, on va faire une sélection des embryons entre ceux qui sont porteurs, ceux qui ne le sont pas, si telle est la demande et si telle est l'existence d'une maladie génétique particulièrement grave. Alors, ça, c'est incontestablement un pas supplémentaire qui est franchi. Et vous voyez ici le matériel qui est relativement sympathique. On se croirait presque sur une petite informatique. Et voilà ici l'image qu'on peut avoir d'une cellule avec une analyse au niveau des chromosomes par une méthode FISH ou bien ici des migrations de protéines par ce qu'on appelle la PCR, méthode de biologie moléculaire, qui permet de diagnostiquer l'existence ou la non-existence d'un gène comme la mucoviscidose, comme l'amyotrophie spinale, comme un certain nombre de maladies particulièrement graves, et qu'on peut savoir donc quels sont les embryons qui sont porteurs ou qui ne sont pas porteurs de cette maladie, et donc décider de ne transférer que les embryons qui sont indemnes, en tous les cas, de cette maladie. Alors, tout ça a été aussi bouleversé dans les consciences par la création artificielle, par le clonage, c'est-à-dire par la création artificielle non pas comme c'est sur cette figure, mais je n'avais que ça comme représentation, la création artificielle de jumeaux, car on sait très bien, si on a un embryon à 4 cellules, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on peut très bien diviser 2 cellules et 2 cellules et créer artificiellement des jumeaux. Mais le clonage, c'est autre chose. Le clonage, c'est la possibilité de prendre une cellule, mais vous aurez, je crois, une séance sur le clonage, donc je vais passer rapidement. Mais par contre, comme on est au niveau de l'embryon, c'est la possibilité donc de prendre une cellule adulte, de l'introduire dans un ovule et qu'à partir de là, les chromosomes qui sont les 46 chromosomes, par exemple, je prends une cellule de ma peau, je l'introduis dans un ovule et ces 46 chromosomes redeviennent un embryon. Donc c'est un embryon identique en termes chromosomiques. Il n'y a plus l'apport d'un autre, ou d'une autre en l'occurrence, ou d'un autre si c'est l'inverse. Il y a l'autoreproduction génétique à partir du même nombre de chromosomes. Donc c'est quelque chose qui alerte les consciences et en même temps pose un certain nombre de problèmes. Alerte les consciences parce que un clonage reproductif qui viserait à créer un individu identique à un homme ou une femme existante, c'est à mes yeux en tous les cas extrêmement condamnable et devrait être interdit. Par contre, un clonage cellulaire qui vise à permettre à partir d'une cellule embryonnaire la constitution d'autres cellules est peut-être une voie d'avenir extrêmement importante sur le plan de la médecine, aussi importante que l'ont été la découverte des vaccins ou des antibiotiques. Mais encore une fois, le temps nous manque pour aborder toutes ces questions sur lesquelles, je suis sûr, vous reviendrez. Alors, il y a une loi qui définit pour la fécondation in vitro ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé, avec des agréments. On ne peut pas faire comme on veut de la fécondation in vitro, ni telle partie ou partie du don d'ovules, de l'injection intracytoplasmique, du diagnostic génétique malplantatoire. Tout ça est extrêmement, transparent en France pour essayer de rassurer et d'éviter que derrière la consultation d'un homme ou d'une femme qui vienne simplement parce qu'il désire un enfant, on voit se profiler une société totalitaire ou autoritaire, dont nous ne voulons pas, bien entendu, mais qui pose quand même le problème de savoir est-ce que ces techniques pourraient être utilisées à des fins totalitaires. La réponse est oui, bien sûr que ces techniques pourraient être utilisées à des fins totalitaires, et on pourrait dire que la barbarie n'a pas attendu les progrès scientifiques pour exister, et même elle existe aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder dans certains pays, pas très loin d'ailleurs à vol d'oiseau, d'une autre, pour voir que l'homme tue l'homme, blesse l'homme, torture l'homme sans qu'il y ait besoin d'utiliser ces techniques. Mais que bien sûr, une telle philosophie, si on peut appeler ça philosophie, je dirais une telle idéologie plutôt, qui viserait à faire le substrat de la purification, je dirais, ethnique, pourrait très bien s'appuyer sur une purification génétique. C'est le pas peut-être facilement franchi. Mais ce n'est pas parce que la technique existe, c'est parce que l'idéologie existe. Ce qui veut dire qu'il faut bien distinguer dans tous ces progrès scientifiques les objectifs qui peuvent être utilisés, dans quel sens ça peut être appliqué au progrès humain ou dans quel sens ça peut être détourné. Rien n'est jamais acquis. Et même si vous prenez les banques de sperme, je voyais dans le journal que des Danois faisaient une propagande pour une banque de sperme qui n'avait que des grands blonds aux yeux bleus. Et on a vu il y a quelques années aux États-Unis une banque de sperme qui disait qu'elle n'avait que du sperme que de prix Nobel. Hein? Alors, à ce que je sache, enfin, je n'ai pas demandé à Jacob, mais à ce que je sache, les prix Nobel ne se passent pas de père en fils. Donc, la génétique, si vous voulez, nous apprend que tout ça est faux et archi-faux. Mais néanmoins, il y a des fantasmes et ça fait travailler, je dirais, l'inconscient d'une part et d'autre part, parfois, le porte-monnaie. Alors, bien sûr que des dérives sont possibles et qu'il faut rester vigilant. Ce que je voudrais dire, pour rester un peu dans le temps qui m'a été imparti, c'est que ce qu'il importe, parallèlement à ces avancées techniques, à ces progrès scientifiques, c'est d'avoir une vigilance éthique, car c'est vrai que les choses existeront, c'est vrai que le clonage sera techniquement possible un jour chez l'homme, mais est-ce que nous aurons créé dans nos sociétés des systèmes de transparence et des systèmes de contrôle qui feront que tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable et n'est pas forcément utilisable. Ça sera là, je crois, un vrai progrès de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, René Friedman. Maintenant, place au débat. Levez-vous si vous voulez poser des questions. Voilà.
Sur la droite.
Alors, sur la droite, mais on va laisser descendre les appariteurs. Monsieur, à gauche.
Monsieur Friedman, Je voulais vous remercier parce que vous avez présenté une très belle diapo, en particulier ce petit frigidaire avec les embryons. Et vous parliez de fantasmes, vous parliez de folie. Je trouve que trop souvent dans les débats qui justement parlent de la fécondation in vitro, on a tendance à oublier que l'embryon que vous avez présenté, ce sont des images pluricellulaires, et que l'on injecte des éléments pluricellulaires, et qu'on ne fait pas de greffe de corps humain. Autrement dit, ce n'est pas de la chirurgie, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est très important, ça, ce n'est pas de la chirurgie de Frankenstein, et je crois que dans les fantasmes humains, comme on a l'habitude de le dire, on en profite un petit peu de ça pour contrarier, si je peux dire, vos idées que vous nous avez très bien expliquées. Je vous remercie.
C'était un constat, monsieur. Bon.
Bonjour, monsieur. Là, j'ai une question, une petite histoire au sujet de l'hérédité. Alors, je commence par la question.
On n'entend pas, attendez.
Très rapidement.
Pouvez-vous juste... parce qu'on n'entend pas le micro. Non, c'est le micro, je pense.
Vous m'entendez mieux? Bon, très bien. Alors, bonjour, monsieur Friedman. J'ai une question et une histoire. Bon, je commence rapidement par la question et rapidement aussi par l'histoire à propos de l'hérédité. Bon, ma question porte sur, en cas de personnes qui se font poser des prothèses, quel risque il y a au niveau des défaillances possibles pour les enfants de ces personnes?
J'ai pas compris.
En cas de...
en cas de pose de prothèse, où ça peut aller depuis le membre qu'on remplace jusqu'au régulateur cardiaque, il y a un risque pour l'enfant potentiel qui va venir. Oui ou non?
Non.
Il a dit non. Bon. Et mon histoirette concerne toujours l'hérédité.
On va peut-être laisser la place aux questions.
Simplement pour affirmer, pour confirmer ce que disait le docteur Freeman, j'ai reçu hier matin un coup de téléphone de mon fils que je n'avais pas vu depuis 14 ans à cause de la mère, et j'ai cru reconnaître un cousin par la voix. Donc l'hérédité existe. Merci.
Bon. À gauche. Monsieur à gauche, oui.
Monsieur Friedman, oui. Vous dénoncez la barbarie, mais je dirais la barbarie, c'est vous. C'est facile. La démonstration, je dirais, va de soi. Parce que vous parlez de... l'ombre de l'avortement plane sur tout votre exposé, n'est-ce pas? Et l'avortement, vous avez... vous avez parlé de la stérilité. La stérilité, le stérilet. Le stérilet est un abortif. Je dirais, c'est une personne humaine. Vous avez dit.
D'accord.
Je vais vous dire une chose très précise. Très précise. Si on
refuse.
J'aimerais une réponse là-dessus, monsieur Friedman.
Il faut plus.
Si. Pourquoi refuse-t-on de donner un statut?
Laissez la parole à quelqu'un d'autre.
Si ce n'est pas pour le traiter comme une chose.
Merci, monsieur. Merci. Voilà. Bon. Madame, une autre histoire, un autre constat? Non.
Bonjour.
Levez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes à droite.
Je voudrais poser une question à laquelle il sera peut-être plus facile de répondre.
Non, mais je peux aussi répondre.
Merci. Je voulais savoir, hier, j'ai écouté l'émission d'Alain Finkielkraut, et il a été dit, entre autres, qu'aux États-Unis, dans certains États, il est interdit de procéder au clonage sur l'être humain. Or, il n'est pas interdit de procéder au clonage sur les embryons. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais ce que j'ai dit un petit peu rapidement, c'est qu'effectivement, je pense qu'il devrait être interdit de créer un être humain à l'identique d'une personne sans qu'il y ait la rencontre génétique et le désir de deux personnes. Donc ce qu'on appelle le clonage reproductif, qui vise à créer donc un être humain, je suis absolument contre. Par contre, s'il y a possibilité, à partir de cellules telles que vous l'avez vu, d'avoir une régénérescence d'un organe atteint par une maladie, je pense que c'est là effectivement quelque chose de positif, donc je ne suis pas contre. Donc effectivement, ce qu'il y a, et on l'a bien vu avec l'intervention de monsieur, il y a une différence d'appréciation extrêmement importante avec des convictions qui sont extrêmement différentes autour de l'embryon humain, y compris dans les cellules telles qu'elles ont été mises en évidence. Pour certains, je dirais, ils y voient déjà la personne humaine. Et donc, ça soulève un certain nombre de questions et de problèmes, et on peut les comprendre. Pour d'autres, au contraire, à ce stade-là, la personne humaine est certes potentielle, mais elle n'est pas encore décidée, et car cet embryon peut donner lieu à une tumeur, il peut donner lieu à rien du tout, il peut donner lieu à deux personnes, et que la définition même de la personne, à savoir quelle est la part du système nerveux, quelle est la part de l'autonomie, je dirais quelque chose qui est extrêmement débattu. Au point même que personne n'affirme que la personne humaine existe dès la fécondation. Et même le Vatican, je dirais que vous devez connaître, je suppose, donne comme définition qu'il faut considérer, selon lui, ce stade-là comme une personne humaine. Le mot « comme » est extrêmement important, car de tout temps, y compris dans les religions, ce point a été discuté, à savoir quand l'âme, si l'âme existe, quand l'âme vient-elle au niveau de l'embryon. Alors, est-ce que l'animation est immédiate ou est-ce que l'animation est différée? Ne croyez pas que la question a été tranchée, elle ne l'a pas été, y compris au sein de l'Église catholique, qui a considéré par certains de ses représentants, et non pas les moindres, peut-être le plus célèbre étant saint Thomas d'Aquin, qui a pensé que l'animation était différée, et qu'elle était différée de 40 jours pour les garçons et 80 jours pour les filles. Et donc, vous voyez que ce problème est resté en suspens et qu'il y a des points de vue qui sont différents. Pour la religion juive, eh bien, l'embryon, je dirais, n'est que de l'eau jusqu'à 40 jours. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est visible à partir de 40 jours, et on peut retrouver dans les écrits talmudiques cette définition, qui est reprise d'ailleurs, ce chiffre de 40, est repris aussi par la religion musulmane qui parle d'adhésion, je dirais, à ce terme-là, et qui définit donc, si vous voulez, au moment de l'implantation, qu'il définit, lui, au niveau dans le Coran, 40 jours, c'est à ce moment où il y a une fusion entre les cellules embryonnaires et l'embryon et la femme qu'il se passe quelque chose qui marque une étape. Donc c'est vrai que la connaissance biologique aujourd'hui nous amène à voir l'embryon à un stade que nous ne connaissions pas, qui est un stade avant l'implantation, mais c'est toujours un embryon qui, selon le Comité national d'éthique, a effectivement une définition de personne potentielle, mais selon qu'on insiste sur la personne ou potentielle, eh bien, on a bien sûr un certain reflet des opinions de la société. Voilà.
Une question technique plutôt qu'idéologique. Il y a quelques jours, dans le journal Le Monde, une étude, je pense que d'une équipe anglaise, faisait une comparaison entre l'insémination artificielle et la fécondation in vitro, et démontrait, alors sur un nombre restreint de patients et de patientes, si on peut les appeler comme ça, que l'insémination artificielle avait des résultats plus efficaces que la fécondation in vitro, et surtout que le coût était beaucoup plus faible. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que c'est effectivement le cas. Il faut bien comprendre que dans la fécondation in vitro, il y a ce qu'on appelle des indications absolues et des indications relatives. Je m'explique. Une femme qui n'a pas de trompe, vous ne pouvez pas lui faire une insémination artificielle, ça ne marchera pas. Un homme qui n'a pas de spermatozoïdes, qu'il faut aller opérer et prendre les spermatozoïdes au niveau testiculaire, je veux dire, si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas d'enfant. Donc, en ce qui concerne les indications absolues comme celle-là, je dirais qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors de la fécondation in vitro. Par contre, lorsqu'il y a des échecs de reproduction dont on ne sait pas très bien le pourquoi, et qu'on va essayer plusieurs choses, et souvent parce que c'est un gadget, parce que c'est la dernière chose à la mode, on peut tirer la sonnette de la fécondation in vitro, eh bien cette étude-là montre déjà ce qui avait été montré par d'autres études d'ailleurs, que lorsque la femme a des trompes perméables, qu'elle a une ovulation et que l'homme a les spermatozoïdes, les résultats globaux de la fécondation sont identiques à ceux de l'insémination, mais les deux étant supérieurs, si vous voulez, à la fécondité naturelle.
Merci.
J'ai cru comprendre que la contraception orale mettait en sommeil le fonctionnement de l'ovaire. Est-ce que ça suppose que ça va retarder la date de production d'ovules vers 48 ans ?
Non, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de sidération. Quelle que soit la durée de la sidération, cela ne changera pas le programme génétique. C'est-à-dire que si une femme prend la pilule et qu'elle a ses ovaires au repos pendant 25 ans, si elle enlève la pilule, si vous voulez, à l'âge de 45, eh ben elle aura, je dirais, elle aura 10 ans de fonctionnement jusqu'à 52-54 ans, qui est l'âge naturel du fonctionnement ovarien. Donc ça ne repousse pas, ça n'avance pas à la ménopause. Ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'on retrouve à l'arrêt de la pilule le fonctionnement ovarien tel qu'il était ou tel qu'il doit être. Il n'y a pas de modification de ce fonctionnement.
Qu'en est-il de la réalité de la baisse de fécondité tant masculine que féminine dont on parle pas mal ?
Alors, en ce qui concerne, si vous voulez, j'ai dit tout à l'heure que l'âge était un facteur important. Le mode de vie, le stress, je dirais sans doute les phénomènes d'environnement font qu'il y a incontestablement du côté féminin, mais surtout parce que la demande d'enfants est beaucoup plus tardive. Je crois que c'est vraiment le phénomène le plus important. Parce que, y compris dans nos campagnes, je veux dire, c'est la réalité, donc la pollution peut-être, mais je ne veux pas faire un argument des verts, je dirais, la pollution peut-être, mais il y a vraiment un phénomène avec l'âge qui joue. Du côté masculin, les résultats sont un peu contradictoires. Il y a une étude française qui montre qu'il y a une diminution apparemment du nombre dans les 20 ans qui ont du nombre de spermatozoïdes dans les 20 dernières années, mais ce n'est pas prouvé qu'il y ait une diminution de la fécondité. Et puis d'autres études sont un peu contradictoires. Donc disons qu'on peut, aujourd'hui, je dirais, on se pose la question, mais on n'a pas la réponse. On ne sait pas. Il faut rester prudent et pas tomber dans un excès ou l'autre.
Je voudrais poser une question d'ordre pharmacologique, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que la vitamine E, qui était découverte dans les années 20, au niveau de spermatozoïdes, et l'arginine, est-ce qu'il a une efficacité sur la qualité du sperme ou non, ou c'est de la placebo-thérapie?
Oui, alors c'était effectivement proposé, tout ce qui est dérivé de la vitamine E. Un certain nombre d'études ont été faites, y compris chez l'animal. En fait, on n'a jamais pu prouver réellement, si vous voulez, une efficacité. C'est toujours... Bon, ce qu'on sait, c'est que ça ne fait pas de mal, mais on ne sait pas si ça fait du bien. Pardon ? Alors, tous ces produits, si vous voulez, ont montré des améliorations in vitro, c'est-à-dire que vous pouvez, en rajoutant sur des spermatozoïdes in vitro, vous pouvez augmenter la mobilité, mais ce n'est pas pour autant que vous avez une augmentation de la fécondité. Donc, il y a des actions, et c'est à partir de là, parce qu'il y a eu des mises en évidence, si vous voulez, qu'on en a déduit. Mais en fait, aucun travaux n'a vraiment permis d'affirmer cela. Alors, il y en a d'autres, il y a d'autres produits qui ont été proposés. Le plus ancien, c'est la vitamine E.
Bonjour. Je voudrais vous poser deux questions extrêmement différentes l'une de l'autre. D'abord, que pensez-vous du fait qu'il semble qu'il est beaucoup plus facile de procéder à une fécondation in vitro actuellement pour un couple qui désire avoir un enfant que d'adopter un enfant en termes de choix de société? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez particulier? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'égoïsme ou de repli sur le couple, et au lieu de se sentir concerné par des problèmes qu'on pourrait résoudre, qui problèmes de société. Et deuxième question très différente par rapport au clonage, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes, en quoi vous vous opposez aux questions de principe sur le clonage, compte tenu du fait qu'un individu, ce n'est pas simplement un génome, c'est tout ce qui vient après, c'est toute l'éducation, sa personnalité. Et la preuve, c'est que deux jumeaux sont deux entités, deux personnes totalement différentes alors qu'ils ont le même génome, donc pourquoi ce problème de principe?
Je vais répondre tout de suite à la dernière. Mais parce que deux jumeaux, ils ont un père et une mère, les deux, bien qu'ils soient du même patrimoine génétique. La différence entre le clonage, c'est que c'est l'image en miroir d'une seule personne, c'est-à-dire que sur le plan génétique, j'entends. Et quelque part, cet enfant, je dirais, est automatiquement porteur, si vous voulez, d'une volonté d'une seule personne qui... Il y a une volonté de puissance qui, à mon avis... je ne parle pas sur le plan du développement possible biologique, parce que je n'en sais rien, mais ce qui me choque énormément, c'est que c'est un appauvrissement, si vous voulez, de l'humain au sens où ce n'est plus tourné vers l'autre, d'une part, et que c'est extrêmement dangereux, parce que de là, il y a effectivement beaucoup de choses découlent vers la barbarie, je dirais, et que d'autre part, l'enfant va être porteur d'un tel message d'un des adultes, je dirais qu'il ne va pas s'en sortir parce qu'il va être à l'image, je dirais, de son père ou de sa mère. Or, vous le savez, tout le problème de l'éducation, c'est que justement, à un moment donné, d'acquérir son autonomie par rapport à l'un à l'autre. Donc je crois que c'est extrêmement dangereux, et pour le plan de la société, et sur le plan relationnel, car la différence, c'est que les deux jumeaux ou les triplés, ils ont un père et une mère, mais que l'enfant cloné ne provient que d'une seule personne. Alors, en ce qui concerne votre question sur l'adoption, alors, je dirais deux faits. Le premier, c'est que la plupart des couples qui veulent un enfant, la plupart, je dis bien, l'énorme majorité, a priori, veulent un enfant d'eux, parce que il faut l'espérer, il y a un peu d'amour quand même dans tout ça, et chacun veut un peu de soi, un peu de l'autre. Il y a une espèce de projection mutuelle, ce qui fait que le premier mouvement dans le cadre du désir d'enfant se fait, je dirais, justement, et ça répond d'ailleurs à la première question du clonage. Hein, je veux dire, c'est un petit peu ce désir des deux. Et ce n'est que lorsqu'il y a une impossibilité, et on le voit bien dans les traitements de la fécondation in vitro ou tous les traitements de la stérilité, ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'il y a une démarche qui se fait en se disant, bon, ben, effectivement, je ne peux pas, nous ne pouvons pas, et c'est vrai qu'on peut adopter un enfant, et que adopter un enfant, vivre cette expérience-là sera extrêmement enrichissante sur le plan sentimental, sur le plan affectif, et pour lui et pour nous, tout en ne masquant pas les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un enfant génétiquement de nous, mais c'est une expérience à laquelle je me tourne. Mais il se passe que, dans les faits, on se tourne vers cela au bout d'un certain temps, car le premier mouvement est souvent contraire, sauf cas très particuliers. Hein, sauf cas très particuliers. La deuxième sous-réponse, c'est qu'il y a des difficultés à adopter, parce qu'il y a peu d'enfants à adopter, je dirais en tous les cas dans notre pays, et que les autres enfants adoptés de par le monde posent un certain nombre de problèmes entre les États. Certains veulent, certains ne veulent pas, entre la difficulté qu'il y a, car on sait que sous l'adoption, il peut y avoir aussi un certain nombre de trafics et de difficultés. Donc tout ça n'est pas simple. Mais ne voyez pas, en tous les cas, dans mon propos du progrès scientifique, quelque chose qui irait contre les possibilités d'adoption. Au contraire, je dirais, je suis tout à fait, à condition de ne pas masquer les choses et de bien dire ce qu'il en est, je pense que ça peut être extrêmement enrichissant pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable difficulté qui est qu'il y a peu d'enfants à adopter, ou qu'en tous les cas, il y en aurait théoriquement beaucoup, mais qu'il y a des difficultés d'organisation et administrative et relationnelle entre les différents États.
Bonjour. Dans le cas de stérilité non expliquée, vous pourriez vous lever, s'il vous plaît.
Voilà, non, c'est, je vous ai vu.
Dans le cas de stérilité non expliquée, que pensez-vous de la part psychologique? Parce qu'on entend souvent parler de couples qui décident en fait d'arrêter soit tout traitement, soit d'adopter, et qui et sur lequel arrive une grossesse un petit peu inespérée.
Vous faites
inespérée.
Un lien avec la...
Non, mais... Et ne pensez-vous pas qu'on néglige un peu l'aspect psychologique dans tous ces traitements médicalisés, de fécondation in vitro, etc.?
Non, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point, qui met l'accent, en fin de compte, sur une méconnaissance que nous avons. D'un côté, nous sommes parfaitement conscients qu'il y a des phénomènes qu'on va appeler psychologiques qui interviennent vraiment dans tout ce phénomène. Et vous citez le cas qui n'est pas rare, il faut bien le dire, de couples qui décident d'arrêter toute prise en charge médicale, ou qui décident d'adopter et qui se retrouvent enceintes spontanément, de couples qui se séparent en pensant que l'homme était infertile alors qu'il va avoir un enfant avec une autre femme, ou vice-versa. Et puis on sait très bien que s'il y a un stress à un moment donné dans la vie, fort, il peut y avoir une perturbation, mais immédiate, sur le cycle ovarien. Donc, et on sait très bien, bon, je ne vous ai pas fait le petit schéma, que l'hypophyse est proche de l'hypothalamus, qui est proche du cerveau, donc je veux dire, tout ça a une certaine logique. Donc on sait qu'il y a des interactions qui peuvent se créer. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de faire une thérapeutique par la prise en compte psychologique. C'est-à-dire, si vous voulez, s'il y a un conflit, s'il y a un malaise, ou s'il y a des difficultés, ce n'est pas aussi simple que de résoudre ou de tenter de donner des éléments pour résoudre ces difficultés et de penser qu'automatiquement, ça va lever l'infertilité. Donc, Mon attitude est de penser que c'est un facteur et une prise en charge extrêmement importante et qu'il ne faut surtout pas hésiter à considérer, je dirais, la personne dans son ensemble, c'est-à-dire non seulement comme des organes qui réagissent à tel ou tel traitement, mais je dirais aussi dans sa psychologie et dans son être, je dirais comment vient cet enfant dans son histoire familiale par rapport à ce couple, par rapport à elle-même, et que toutes ces démarches médicalisées peuvent être aussi, je dirais, si on n'a pas de problème psychologique au début, on finit par en avoir, parce que c'est tellement lourd, je dirais tout ça, qu'on a besoin d'en parler et de repositionner son désir, je dirais, où est-ce qu'on en est. Et je dirais même en plus qu'il y a une troisième dimension à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est la dimension éthique. Je disais que l'être est fait de ces trois dimensions et que souvent, là, dans les méthodes de procréation médicalement assistée, de tout ce qui tourne autour de ces développements scientifiques, il y a aussi besoin de prendre en compte que certaines des techniques qui peuvent être proposées viennent bousculer une échelle de valeur d'un tel ou d'un tel et que donc il y a aussi besoin d'un temps de réflexion qui n'est pas ni du domaine psychologique ni du domaine organique, mais qui est plutôt de la valeur morale, qui fait que des gens acceptent ou n'acceptent pas une proposition qui pourtant existe, mais qui ne leur correspond pas, et je crois qu'il faut surtout les respecter.
Pour respecter la règle du jeu, encore 2-3 questions. Merci.
Bonjour.
Oui, ça y est, ça marche.
Bon, bonjour, Bonjour, je suis Patricia Lofficial. Je profite actuellement d'insémination artificielle dans votre service et je souhaiterais savoir pourquoi les scientifiques ne s'intéressent pas, le mot est peut-être un peu fort, à la biopsie embryonnaire après fausse couche.
Non, au contraire, je dirais que, si vous voulez, que lorsqu'il existe cet accident qui est la fausse couche et que celle-ci est répétitive, j'entends, qu'elle constitue une véritable maladie abortive, il y a effectivement un intérêt à savoir ce qui peut se passer pour être la cause de cette fausse couche. On sait que statistiquement, 1-2 fausses couches sont liées à des anomalies chromosomiques et que c'est la majorité des cas. Donc quelque part, on remonte souvent en faisant une analyse chromosomique du couple, l'homme et la femme, pour voir s'ils ne sont pas porteurs d'une anomalie qui serait susceptible de rendre plus fréquent cette fausse couche. L'analyse de la fausse couche elle-même, lorsque cela est, je vous dis, dans une fréquence de 1, 2, 3, n'apporte peu d'éléments. Ce qui apporte plus d'éléments, c'est plutôt ce qui existe au niveau de l'homme ou de la femme comme précurseur. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on fait des recherches plutôt qu'au niveau de la fausse couche. D'abord, c'est difficile parce que souvent, on n'a pas le produit, si on peut dire, entre guillemets, d'expulsion de fausse couche. Et que d'autre part, ça ne donne pas des renseignements. Souvent, c'est difficile d'examen. Et en plus, même quand on l'a, ça ne donne pas grand-chose parce qu'on sait que ce sont des aberrations chromosomiques. Ce qui est important, c'est de voir quel est le risque qui perdure du fait de la constitution chromosomique ou génétique de l'homme et de la femme.
Madame, la dernière question.
Je voudrais savoir quel est le délai maximum de culture embryonnaire. Je crois qu'il est environ de 5 jours. Est-ce qu'il y a un intérêt de prolonger cette culture au-delà de 5 jours?
Alors aujourd'hui, c'est vrai que nulle part dans le monde, on ne connaît, si vous voulez, des cultures qui permettent d'aller plus loin que 6 jours. Alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'à partir du 6e, 7e jour, vous vous rappelez la photo avec la membrane qui entoure, cette membrane disparaît. Donc l'embryon va sortir. Donc s'il n'a pas une muqueuse, si vous voulez, pour le tenir, il va s'étaler et ne va pas pouvoir se développer. Deuxièmement, on n'a pas les milieux, si vous voulez, susceptibles de... Pas uniquement les milieux, mais le milieu et le support susceptibles de développer ces cellules dont on ne sait pas très bien quelle forme ils prendraient. Si vous voulez, ce serait peut-être plus des amas cellulaires qu'une image embryonnaire. En tous les cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous ne savons pas cultiver des embryons in vitro au-delà de 6-7 jours.
Merci beaucoup, René Friedman. Merci.